Pinsoir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et depuis notre prise d'antenne tout à l'heure à 18h, voilà ce qu'on vous dit, des négociations bloquées, des négociations retardées, la libération en tout cas des 14 otages israéliens qui devaient intervenir aujourd'hui a été suspendue. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On devait avoir évidemment le porte-parole de Tzahal au téléphone, le colonel Rafovitch, qui s'est décommandé parce que, eh bien, on peut comprendre, hein, la situation est telle que pour l'instant, et c'est très, 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 très touchy. Et on va en parler avec mes invités. Bonsoir à vous, David Corona.
Bonsoir.
Merci d'être en studio. Vous êtes ancien négociateur de crise au GIGN, directeur général de Incognita, auteur de Négocier face à la violence avec ses émotions pour trouver son chemin. C'est publié aux éditions Grasset. Bon, général, bonsoir. Vous êtes Alexandre Lalanne Bertoudic, général de Légion, ancien chef de corps du 3e REI. Et on va examiner la situation également avec vous, mon général. David Corona.
Bonsoir.
David Corona, cette suspension, ce retard avec une décision unilatérale du Hamas qui a pris par surprise, on l'a vu même Tzahal, puisque le porte-parole Olivier Rafovitch, qui était, parti pour intervenir dans les médias français, puisque c'est sa mission, pour raconter un scénario quasi identique à celui qu'on a vécu hier, a été lui-même pris de court. On l'a vu sur certaines chaînes de télévision répondre à son téléphone portable avec cette dernière information. Est-ce que ça vous étonne ?
Non, absolument pas. Dans ce genre d'opération, c'est le cas régulièrement lors d'une extorsion de fonds, lors d'un enlèvement, lors d'une prise d'otage. Il y a systématiquement ces ascenseurs émotionnels, ces prises de position supérieure. D'ailleurs, hier, on avait déjà pris un report de 24 heures qui nous a fait faire un tour de bocal au niveau médiatique et sur place. Ça peut s'expliquer de différentes manières, mais ce qui se passe aujourd'hui est encore la preuve que le Hamas essaye de maîtriser le cadre des négociations et le rythme de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est plutôt classique dans des opérations de négociations sensibles, et notamment des libérations perlées comme celle-ci. Historiquement, il n'y en a jamais vraiment eu. Donc on est en train de découvrir la manière dont les opérations vont se passer et en même temps assez peu surpris de la tension psychologique qui se met en place dans cette opération.
Bon, général, on a dit depuis 24 heures que c'était une bonne opération pour le Hamas, en fait, cet accord. Est-ce qu'ils essayent justement de tirer la corde encore plus pour que ce soit encore une meilleure opération au vu notamment des pays arabes ?
Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'ancien négociateur du GIGN. C'est très classique. Moi, dans les négociations dont j'ai eu à m'occuper lorsque j'étais à la frontière israélo-libanaise, c'était souvent le cas. Il y avait des changements de dernière minute, des reports. Non, c'est rien de nouveau. Le Hamas étant d'ailleurs une organisation qui n'a aucune moralité, aucune morale publique, j'allais dire. Ce qu'ils veulent, c'est la destruction de l'État d'Israël. Ils emploieront donc absolument tous les leviers dont ils disposent, et celui-là est comme d'autres.
Oui, et donc jusqu'au bout, on peut, s'attendre à « et tiens, on veut ça en plus, et tiens, on va vous demander ça en plus », parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix.
Ben, ça, il faudrait le demander aux Israéliens, mais je crois que leur choix est extrêmement difficile. D'ailleurs, ils m'ont un peu étonné. Vous me direz, ils étaient un peu obligés de le faire. Oui. Mais c'est pas dans leurs habitudes, comme ça, de dire, ben, tant pis, les otages, pour le moment, on s'en occupe pas, et d'entrer en guerre fortement. Enfin, que comme ils l'ont fait dans leurs opérations, là, depuis une quarantaine de jours. Là, le Hamas a intérêt à faire traîner les choses. Tout report, même de quelques heures, leur sera favorable, parce qu'ils veulent reconstituer leurs forces. Et là, ils en ont pris vraiment plein la figure depuis 40 jours. Et ils s'attendaient, à mon avis, d'ailleurs, assez peu à une réaction aussi forte et aussi rapide d'Israël, à cause de ces otages. Donc, à la fois, ils ont gagné parce que Ils ont toujours un moyen de pression extraordinaire sur Israël et l'opinion publique israélienne, mais ils ont perdu dans la mesure où l'armée israélienne est quand même entrée dans Gaza et en grande force, avec une opération remarquablement montée d'ailleurs, qui les surprend, enfin je veux dire, dont l'importance les surprend. Ils ont perdu beaucoup de monde depuis le début de l'opération.
David Corona, il est aucunement intentionnel de jouer l'ascenseur émotionnel pour les familles des otages, ou est-ce que ça rentre aussi dans la ligne de compte, dans un narratif, j'allais dire, dément, maléfique, cynique?
Je trouve que cette opération, depuis le début, a été préparée de manière macabre et de manière finement très stratégique. Cette opération, lorsqu'elle a eu lieu, militairement parlant, je veux dire, il faut se rendre compte de la difficulté de pénétrer dans un pays tel qu'Israël, à la frontière palestinienne, récupérer de manière préméditée ou fortuite, avec cette rave party, plus de 200 personnes et les retenir pendant 50 jours. C'est du jamais vu. Il y a déjà eu des prises d'otages de masse avec des reprises de vive force en Russie à deux reprises, avec des carnages sanglants de plus de centaines de morts collatérales au sein des civils qui étaient retenus. C'est un mode opératoire qui est habituellement utilisé par des groupuscules tels que le FARC en Colombie, qui récupère 1, 2, 3, 5, 10 personnes. Et la logistique de maintien à niveau d'hygiène et de santé des otages est très compliquée. Rendez-vous compte, il faut les faire très basiquement aller aux toilettes, il faut les hydrater, il faut les faire dormir, il faut les nourrir, il faut les soigner. Et ça, c'est très complexe au fur et à mesure du temps. Le tour de force qu'est en train d'opérer le Hamas, c'est qu'il libère au bout de 50 jours des otages d'un certain âge. On voit des dames de 85 ans qui sont en capacité de marcher et de parler. Et ça, c'est un combat médiatique, mais c'est aussi une...
C'est la guerre des images.
C'est la guerre des images. On le voit d'ailleurs lorsqu'ils remettent certains otages aux mains du CICR. Ils se prennent en photo, ils se filment en train de porter des dames âgées. Et c'est une manipulation abominable.
Cela même peut-être qu'on a vu, enfin que certains d'entre nous ont vu, pour ceux qui ont regardé le film de 43 minutes du massacre des GoPros du Hamas, qui a été diffusé à quelques-uns de nos confrères et que j'ai moi-même visionné également, où ils se prennent en selfie et en photo en train de tuer des gens. Ouais. Ce sont ceux-là même qui portent
se mettent
à bout
en
de bras
scène
avec des petites filles ou des femmes âgées.
En train de prendre soin d'enfants en leur parlant. Et ça, cette manipulation, elle est organisée par le Hamas. Et la tension, ou en tout cas l'ascenseur émotionnel et ce que ça va créer comme douche froide auprès des familles joue sur le fait que potentiellement ils arrivent à perler ces remises, ou en tout cas ces remises en liberté d'otages, pour obtenir de plus en plus de choses. L'étau va se resserrer, parce qu'à un moment donné, les femmes, les personnes âgées, les enfants qui sont libérés chaque jour, ce cheptel-là, si je peux m'exprimer ainsi, va se réduire, et à un moment donné, il va falloir libérer des hommes, et voire même libérer des soldats israéliens. Et c'est à ce moment-là, je pense, que le Hamas va commencer à demander la libération de prisonniers plus importants ou plus difficiles à accepter pour Israël.
Oui, et on se souvient que Gilad Shalit, d'ailleurs, avait été échangé contre plus de 1000 prisonniers.
1027 personnes.
1027 prisonniers palestiniens. Alexandre Lalanne-Bertoudic et David Corona sont avec nous pour commenter cette actualité brûlante qui est la suspension des 14 otages, de la libération des 14 otages aujourd'hui.
Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Les débats de panorama jusqu'à 19h sur Europe 1, avec cette information qui nous a pris de court tout à l'heure. À 17h30, on a appris que les 14 otages israéliens qui devaient être libérés aujourd'hui ne le seront pas, ou en tout cas ne le seront pas tout de suite. Le porte-parole de l'armée israélienne pour les médias français, le colonel Rafovitch, a d'ailleurs immédiatement suspendu toute communication avant d'en savoir plus, de pouvoir nous donner des informations évidemment sur ce qui pourrait être la vérité sur cette suspension. Pour l'instant, on parle de suspension, de retard, pas d'annulation, de libération de ces otages israéliens. Nous sommes avec le général Alexandre Lalanne-Bertoudi, qui est avec le négociateur, ancien négociateur de crise au GIGN, David Corona. Mon général, au début, on s'en souvient, on disait il n'est pas question qu'une démocratie, en l'occurrence Israël, négocie avec un mouvement terroriste, en l'occurrence le Hamas. Finalement, on l'a fait. Est-ce qu'on n'aurait pas dû le faire ?
Non, non, enfin, c'est un peu irresponsable de dire ça. Oui, on a des principes, soi-disant une démocratie ne négocie pas avec des terroristes, mais elles l'ont toujours fait, les démocraties. Donc ça, c'est pas très honnête de dire ça.
Vous sonnez, c'est ce qu'on disait au début, hein.
Ah, mais je me souviens très bien, naturellement, mais si vous voulez, les principes sont une chose dans ce domaine, et puis l'efficacité en est une autre. Hein. Et puis de toute manière, Israël a depuis longtemps négocié avec le Hamas. Nous parlions tout à l'heure de la libération de Gilad Shalit, qui a pris plus de 5 ans contre 1027 prisonniers palestiniens, donc ils ont bien négocié avec eux. Bon, voilà. À mon avis, c'est pas très intéressant de parler de ça, parce que ça n'est pas vrai. Quoi.
Voilà. Mais David Corona.
Oui, je suis entièrement d'accord avec le général. Il y a un fossé entre la théorie et la pratique opérationnelle sur le terrain. Il y a deux niveaux de lecture dans le fait de vouloir essayer de ne pas négocier avec des terroristes. Alors oui, de manière très idéologique et de manière très théorique, il faudrait ne pas négocier avec des terroristes parce que de manière implicite, quand on en vient à discuter, ça voudrait dire qu'ils s'y sont pris de la bonne manière et que c'est grâce à cette opération ou à cette action qu'ils vont réussir à obtenir ce qu'ils veulent. De manière très intègre et humaine, bien sûr qu'il faut discuter avec les terroristes dans ce cadre-là parce qu'ils retiennent des vies humaines, des enfants, des femmes et que, comme le disait le général, ce serait absolument irresponsable que de ne pas rentrer dans cette discussion.
Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites d'ailleurs au début et le général, et je vous présente mes respects, mon général, mais vous avez tout à fait le raison de dire qu'il est parfois incongru de parler de certaines choses, mais je rappelle quand même certaines choses qui ont été dites au début du conflit. Moi, je me souviens d'une journaliste du Yediot Aharonot qui avait dit « tant pis pour les otages, tant pis, il faut taper Gaza, faut y aller, faut y aller à toute vitesse. »
Ça marche quand vous n'avez pas votre femme, votre enfant, votre mère prise en otage.
C'est
assez
facile. C'était une époque où on pensait
ça.
Qu'il y avait une centaine d'otages. Après, on a su malheureusement.
Mais lors de Charlie Hebdo, ça a été le cas. Lors du Battle Camp, ça a été le cas. On a entendu ces discours-là de certaines personnes qui disaient on ne doit pas négocier avec des terroristes. Oui, et pourtant, il y a encore des vies à sauver.
Oui. Mon général, est-ce que vous pensez, d'une certaine manière, que cette trêve qui risque de durer plus longtemps, en tout cas là, avec cette suspension de libération, malheureusement la trêve dure, est-ce que d'une certaine manière ça pourrait conduire à la fin de la guerre?
Alors, il y a manifestement deux camps qui s'affrontent. Le camp de l'armée israélienne, composé de militaires qui connaissent leur métier. Ils savent qu'une pause opérationnelle de 4 jours, c'est déjà absolument énorme, qu'à partir du moment où on a la supériorité sur l'ennemi, il faut, comme le disait un homme politique célèbre, les buter jusque dans les chiottes, parce qu'il n'y a que ça qui marche. Il y a eu cette pause. Il y a, si vous voulez, une course de vitesse entre les partisans de sauver les vies des otages donc une partie de la population israélienne, les familles, les femmes et les enfants dont parlait mon camarade tout à l'heure, et puis l'armée qui connaît son métier et qui dit attendez, nous sommes justement en train de les pousser à bout, il faut y aller. Là, l'armée israélienne a pris ses responsabilités. Hein. N'oublions pas que le Hamas avait dit à chaque bombe israélienne, nous exécuterons un otage. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont bien trop précieux, d'ailleurs, ces otages. Mais on est donc dans cette course de vitesse. Et toute heure gagnée par le Hamas, c'est une heure de logistique qui leur permettra d'amener du carburant pour les ventilateurs, enfin pour les systèmes de ventilation des souterrains, qui leur permettra de se ravitailler. Ils se foutent totalement du sort de la population gazaoui. Ce qui les intéresse, c'est de tuer le plus d'Israéliens possible et, si possible, de voir l'armée israélienne avec une telle pression de l'opinion publique, y compris mondiale, arrêter son opération et évacuer la bande de Gaza.
C'est très important ce que vous venez de dire, mon général. Ils se foutent totalement de la population gazaoui.
Ben, totalement. Enfin, vous imaginez les milliards qu'a coûté le creusement de ces 600 ou 700 kilomètres de tunnels. Et vous avez vu l'état dans lequel ils sont. Enfin, c'est vraiment un travail remarquable. Tout ça, c'est des milliards qui n'ont pas été donnés à la population gazaoui, dont les conditions ne sont pas épouvantables à l'intérieur de la bande.
Avec des...
Ils sont très nombreux, mais ils auraient pu faire, ils auraient pu énormément améliorer leur sort. Ils ne l'ont pas fait. Ouais. C'est même pas des abris qu'ils ont creusés. C'est uniquement une sorte de forteresse, de gigantesque fortification pour faire la guerre à Israël. Oui, et oui. Ils avaient donc planifié depuis des années cette affaire.
Avec notamment de l'argent européen, on le sait désormais. Et
naturellement.
Avec parfois, ça a été vraiment... on a vu quelques images de tuyaux qui étaient normalement des tuyaux servant à des canalisations d'eau et qui en sont en réalité des tuyaux qui, découpés, servent maintenant au lancement des missiles. Quoi.
C'est, mais naturellement, mais tout le monde, enfin tous les gens qui ont quelques connaissances de ça le savent.
Ouais. Oui. David Corona, vous avez tout à l'heure mentionné quelque chose, vous avez dit oui, les otages, c'est compliqué, il faut pour le Hamas et pour les je vais pas dire les combattants, les terroristes du Hamas, il faut s'en occuper, il faut leur donner à boire, à manger, il faut parfois les soigner, alors que ces mêmes terroristes du Hamas, on les a vus, notamment dans ce film terrible qui a été montré à quelques journalistes, on les a vus les tuer à bout portant, les torturer avec des pelles, des choses absolument épouvantables. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête, j'ai pas envie de dire le cerveau, mais dans la tête d'un terroriste du Hamas, il doit s'occuper de son otage, alors qu'en réalité, il a qu'une envie, c'est de le buter, en fait.
Oui, alors au-delà de ça, il faut imaginer qu'un preneur d'otage à caractère terroriste, idéologique, quelqu'un de radicalisé, n'a pas pris en otage des êtres humains, il les déshumanise, comme c'est le cas dans certaines opérations lorsqu'on avait faire face à Mohamed Merah ou des gens comme les frères Kouachi. Ce sont des gens qui sont radicalisés dans une idéologie qui déshumanise les êtres humains à leur disposition, et c'est bien le cas, et qui les considère comme une monnaie d'échange et un cheptel. Là, tant que les membres du Hamas ont quelque chose à réclamer, quelque chose à obtenir, ils ont d'autant plus intérêt à prendre soin des vies qu'il leur reste, parce qu'on parle de 200 otages retenus, on ne sait pas à l'heure qu'il est combien sont encore vivants. Des victimes collatérales potentiellement des tentatives d'assaut d'Israël ou peut-être de certains bombardements ou simplement de faute de soins ou des échauffourées qui auraient pu avoir lieu avec certains militaires israéliens à l'intérieur.
On attend toujours d'avoir des nouvelles d'ailleurs d'un enfant de 10 mois.
On ne sait pas, à l'heure qu'il est, combien d'otages vivants et en bonne santé sont à la disposition du Hamas dans ces phases d'échange-là. Et effectivement, ces gens-là sont dans une réalité économique d'échanger des êtres humains qui sont déshumanisés contre d'autres Palestiniens.
David Corona, vous avez parlé d'idéologie chez ces gens-là. Et en même temps, depuis tout à l'heure, on parle de cheptel et donc de marketing. Comment est-ce que ces deux éléments, qui sont quand même apparemment antinomiques, se rejoignent?
Le mouvement du Hamas utilise... Je veux dire, il faut se rendre compte des images qui ont été prises au départ. Le général le disait, ça fait pas des jours, ça fait pas des semaines, ça fait pas des mois, ça fait des années que cette opération est préparée. Parce qu'il faut ensuite de la phase d'assaut, de capture, arriver à avoir préparé une logistique, retenir 200 personnes, les dispatcher, leur permettre d'aller aux toilettes, de se doucher potentiellement, de changer d'habit, de les nourrir, de soigner ceux qui sont malades. Et ça se prépare finement. Et derrière, il y a cette machination de communication. On l'a vu hier, on voit ces combattants du Hamas, ces terroristes qui portent des dames âgées dans leurs bras, qui ont des enfants dans leurs bras, qui essayent de se faire passer pour les gentils et qui ont... jusqu'au bout de la dernière action, utiliser ces images pour en faire quelque chose qui est à leur avantage, qui va pouvoir être de la propagande, qui est déjà de la propagande à leur cause.
Général Alexandre Lalanne Bertoudi, si cette suspension de libération dure trop longtemps, est-ce que Tsahal va reprendre les combats?
Alors, si j'ai bien compris, ils ont eux-mêmes envoyé un ultimatum en disant si vous ne libérez pas les otages que vous aviez prévu de libérer aujourd'hui, nous reprenons le combat ce soir à minuit. Alors peut-être que j'ai mal compris.
Minuit, mais, donc 23h heures françaises. Voilà.
23h françaises, voilà. Mais de toute manière, il faut bien comprendre à qui on a affaire. Moi, je me souviens des 6 soldats qui avaient été capturés par le Hezbollah en 2006. Israël, enfin, ils étaient donc soi-disant retenus en otage. En fait, on a découvert au moment où l'échange a eu lieu, enfin l'échange, où le Hezbollah a accepté de les rendre, c'était des cadavres. Mmh. Ils avaient été tués, ils étaient morts quelques heures après. Alors on ne sait pas exactement dans quelles circonstances, parce que les médecins légistes n'ont pas pu les examiner, enfin, n'ont pas pu conclure par l'examen des corps qui étaient trop abîmés, mais ils étaient morts quelques heures après, et tout le monde croyait. Les Occidentaux et les Israéliens croyaient qu'ils étaient vivants, et donc ils ont servi de monnaie d'échange alors qu'ils étaient déjà morts. Et si ça se trouve, c'est le cas de quelques-uns, voire de plusieurs dizaines d'otages, on pourra faire traîner les négociations, regardez pour Gilad Shalit, on pourrait faire traîner les négociations pendant oui. des années. Oui. C'est pourquoi, à mon avis, soit Israël reprend le combat après cette première trêve, et a des chances vraiment de mettre à bas l'organisation militaire du Hamas, soit elle se fait engluer par les différentes factions qui pèsent sur elle, et spécialement les manipulations de l'opinion publique. Et dans ce cas-là, les, je ne sais pas combien, 80 ou 100 types qu'ils ont déjà perdus seront morts pour rien.
Ouais, on parle alors que la place des otages, comme on l'a appelé maintenant, qui est la place du Musée des Arts à Tel Aviv, est noire de monde, avec
oui, évidemment de monde.
Des slogans et des pancartes et des photos qui sont brandies. David Corona, vous opiniez du chef quand le général parlait justement de ces quatre figures qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui.
Oui, effectivement, on peut assister à différents scénarios. On pourrait avoir une reprise des combats, on pourrait avoir des échanges perlés réguliers, on pourrait avoir des reprises et des stops, des ascenseurs émotionnels. Ce que je retiens tout de même, c'est que le volume d'otages, s'il est bien aussi conséquent que celui qu'on pense d'otages vivants à entretenir, la pression se fait de plus en plus présente auprès des membres du Hamas, parce que la logistique d'une telle prise d'otage est compliquée à tenir dans le temps. Mmh. Et que cet ascenseur émotionnel marche aussi pour les prisonniers palestiniens terroristes qui étaient censés être libérés ce soir, et que cette partie-là d'équilibriste est compliquée à gérer pour chacune des deux parties.
Oui, je ne veux pas faire de cas de figure, mais si les otages... sur les 220 qui manquent encore à l'appel, si un certain nombre et peut-être un grand nombre se trouvent malheureusement décédés, qu'est-ce qui se passe du côté israélien? Là, pour le coup, c'est l'éradication du Hamas qui, pour l'instant, est mise entre parenthèses, mon général?
Très difficile à dire. Parce que, encore une fois, Israël a, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, un souci religieux, au sens propre du terme, de la vie humaine. C'est la seule armée qui, avant de bombarder, envoie des tracts en disant « Attention, oui. dans 5 minutes, vous allez recevoir des bombes sur votre quartier ». Bon, ça, moi, je ne connais aucune autre armée qui le fait. Mmh. Nous, lorsqu'on a bombardé le Kosovo, enfin, exactement Belgrade, on avertissait personne. Hein. Bon, alors, voilà. Donc, il faut le dire aussi. Ils ont tout avantage, surtout quand on connaît la mentalité juive. Enfin, moi, j'ai eu la chance de discuter de toutes ces questions-là avec des rabbins et des camarades de l'autre côté de la frontière quand j'étais au Liban, parce que c'était mon métier. Hein. Et ils veulent absolument récupérer le maximum de personnes vivantes. Mais tant que vous ne savez pas s'ils sont vivants ou morts, eh bien, vous prenez le pari de ce qu'ils sont vivants. Et ça complique énormément les choses. Voilà.
Est-ce que vous pourriez nous faire un portrait robot, général Lalanne Bertoudic, de ce qu'on appelle les brigades Ezzedine El-Qassam?
Les brigades Ezzedine El-Qassam, c'est un ensemble de gens que moi je ne peux comparer qu'aux Einsatzgruppen de la Seconde Guerre mondiale en Ukraine.
En Ukraine, ouais.
Ils sont totalement décérébrés. Totalement. Ils portent le bandeau sur le front de sur lequel est écrit la Shahada, la profession de foi islamique, et ils ont déjà donné leur vie. On dit ils risquent leur vie. Non, ils l'ont déjà donné. Je me souviens, j'ai raconté dans un article d'ailleurs d'une conversation que j'avais eue en 2006 avec un jeune capitaine de la brigade Golani qui avait eu des combats extrêmement difficiles à Aïta Ashab au sud Liban, et qui me disait, vous savez, c'est très difficile pour nous parce que pour la première fois, nous nous sommes heurtés à des gens qui voulaient mourir. Il voulait mourir. Mmh. Et donc, en tuant le plus d'Israéliens possible, mais il voulait mourir. Mmh. On sort là tout à fait des schémas habituels de nos armées occidentales civilisées, si vous voulez. Là, oui, on n'est pas dans la civilisation, on est ailleurs.
Oui, et donc ce sont des, j'allais dire, presque comme des drones, si vous me permettez la comparaison, oui, qui sont pilotés par... alors, on a dit beaucoup de choses. Il y a le Qatar, il y a l'Iran, il y a des décideurs au-dessus d'eux. Et comment ça se passe? Quel est l'organigramme, d'une certaine manière, jusqu'à, justement, ce combattant d'Ezzedine Belkacem qui va dire « Ok, je fais ce que vous me dites ».
Alors là, j'avoue que je ne le connais pas dans le détail. Ce que je vous dirais ne serait pas exact. Mais alors attention, vous dites l'Iran, le Qatar, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. On ne peut pas dire que le Qatar manipule le Hamas.
Non,
ça,
mais il le finance.
Il le finance, exactement. Ouais. L'Iran non plus. De même que l'Iran ne manipule pas le Hezbollah. Le Hezbollah, ça, on peut... Enfin, les comparaisons, il ne faut pas non plus comparer complètement
vous
Hezbollah
avez raison,
et Qatar.
Vous avez raison.
Le Hamas, hein, ce sont deux organisations différentes, là aussi, hein, très 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 différentes même. Mais vous avez au Hamas des gens, le Hezbollah c'est pas pareil. Hein. Vous n'avez pas des types complètement décérébrés comme ça. Le Hamas, c'est terrible. Hein. Quelques folles dingues de la Waffen-SS, enfin de la SS Polizei ou de la Waffen-SS de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Mais autrement, non. Ou les tigres de l'Alam Tamoul dans les années 80, si vous voulez. Mmh. Ou les enfants soldats, alors pour des raisons différentes, hein, il n'y avait pas l'idéologie islamiste derrière. Mais ce sont des gens qui, comme le disait fort bien votre interlocuteur, chosifient l'adversaire. Enfin, il n'existe pas, enfin, je veux dire.
Oui,
vous savez, les Allemands appelaient les détenus dans les camps de concentration des Stücken, des morceaux.
Oui.
Voilà.
Ouais. On en est là.
On en est là,
mon général. David Corona, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait avec les familles dans l'intervalle que l'on connaît? Là, à 17h30, c'est tombé, donc 18h30 à Tel Aviv, on leur dit bah, finalement, ceux qu'on vous avait prévenus, on a téléphoné aux familles des 14 otages qui tenaient. Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment est-ce qu'on fait pour les contenir, pour les calmer? Est-ce que déjà on fait quelque chose?
Oui, alors c'est terrible parce qu'on leur a annoncé hier soir que leurs proches faisaient partie de la liste des libérés. Je pense que les familles ne sont pas absolument dupes et savent à quel point ces accords sont fébriles et que tant qu'elles n'ont pas récupéré leurs proches de manière physique dans leurs bras, elles ne seront pas soulagées. Maintenant, on ne peut pas les empêcher d'être dans l'espoir. Elles sont forcément encadrées, entourées. On l'a vu hier, chaque otage récupéré est accompagné par un militaire. De la même manière, les familles sont mises dans un sas, je pense, physiquement déjà et psychologiquement, pour être préparées. Et que là, à l'heure où on se parle, elles ne sont pas seules.
Oui.
Elles sont accompagnées pour
elles
leur donner un niveau d'information.
Elles ne sont pas seules dans leur appartement devant leur télévision.
Non.
Elles sont entourées par des gens de l'État israélien.
Non, là, les familles ont été déplacées, prêtes à recevoir leurs proches. Après, effectivement, un check médical et peut-être un entretien pour vérifier à quel point les séquelles psychologiques sont présentes. Mais les familles ne sont pas seules, sont déjà entre elles. Et il doit y avoir une intime solidarité alors qu'il est entre elles pour continuer d'espérer, de prier, récupérer leurs proches le plus rapidement possible.
En tout cas, on a ces images-là de cette place à Tel Aviv où on attend comme si ça devait être imminent. Ces situations-là, on l'a dit, mon général, mais ça peut durer une heure comme ça peut durer plusieurs jours, en fait.
Mais bien sûr. Et plus ça durera, plus le Hamas en tirera bénéfice.
Oui. Oui.
Après,
David Corona.
Après, Israël vient de poser un ultimatum.
Ouais.
Ce qui est problématique dans le fait de poser un ultimatum, c'est qu'effectivement, il peut faire basculer l'adversaire dans une position qui nous est favorable. Le problème dans le revers de la médaille d'un ultimatum, c'est quand on pose un ultimatum à quelqu'un, on se le pose à soi-même. C'est-à-dire qu'à la fin du temps échu, il va falloir que j'ai la volonté et la capacité de mettre à exécution les conséquences du non-respect de cet ultimatum. Et donc, en posant un ultimatum au Hamas, Israël se met dans l'obligation de l'exécuter
Et donc avec de taper à minuit heure israélienne.
Avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur les otages eux-mêmes.
Oui, et ça,
c'est
en général.
Je suis en plein accord avec ce qui vient d'être dit, mais il est évident que si du moins cet ultimatum est vrai, est véritable, hein, moi je crois avoir compris ça, il ne peut émaner que du pouvoir politique.
Alors, il émane du pouvoir politique, mais c'est ce qu'on vient de dire avec David Corona, c'est-à-dire que si on tape, on tape, et si on tape, effectivement, on met très sérieusement en danger la vie des otages. Mais est-ce que le Hamas...
Oui, mais de toute manière, Israël a déjà choisi de ménager tant que faire se peut, mais contrairement, à mon avis, à ce que pensait le Hamas au départ, qui s'est dit avec 240 otages, ils n'oseront pas envahir la bande de Gaza, eh bien, ils l'ont fait quand même. C'est ça, hein, gouverner.
Ouais, et apparemment, il y a une déclaration d'un porte-parole de Tzahal qui dit que le Hamas est en train de jouer une guerre psychologique avec les familles. Est-ce que, d'une certaine manière, le Hamas compte sur les familles pour faire pression ensuite sur le gouvernement israélien, sur le gouvernement Netanyahou, comme ça a été le cas, souvenez-vous, de cette marche des familles des otages qui est allée de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem, 60 km à pied, pendant plusieurs jours pour arriver devant les bureaux de Benjamin Netanyahou. Est-ce que le Hamas, dans sa folie, compte également sur une pression?
Je trouve ça absolument absurde. Excusez-moi, mon général, je trouve ça absolument absurde dans la mesure où c'est déjà le cas. Je veux dire, Israël n'était pas du tout enclin à négocier. Israël finit par accepter une négociation d'intermédiaire. Israël prend en compte, comme le disait le général, la vie humaine au plus haut point. Les familles font déjà un poids dans cette balance qui est assez énorme. On en est venu à trouver un accord à libérer 3 fois plus de prisonniers terroristes palestiniens que d'Israéliens. Je me demande, à travers ce qui est en train de se passer là, ce que le Hamas veut obtenir de plus que ce qu'il a déjà.
Général Lalanne.
Non, il veut obtenir, enfin, il veut gagner du temps.
Encore une fois, pour se reconstituer.
Se reconstituer. Ils ont un tel stock d'otages. Enfin, souvenez-vous, quoi, ils nous ont baladés pendant 6 ans avec un soldat israélien.
Oui.
Parce que là, pour le moment, je suis désolé de paraître très cynique, mais avec Gilad Shalit, ils ne libèrent que le menu fretin. Des vieillards, des enfants, puis c'est très médiatique. Regardez, nous sommes humains. Alors, ils sont parfaitement inhumains, hein, mais regardez, nous sommes humains, nous libérons des bébés, des machins. Oui. Mais enfin, lorsqu'on arrivera, il y a un certain nombre d'officiers, de sous-officiers et de soldats israéliens, ceux-là, ils ne sont pas encore sortis. Hein.
Oui, et puis on ne sait pas s'ils sont encore vivants, c'est ça le problème.
Et en plus, on ne sait pas, comme vous le dites, s'ils sont encore vivants.
David Corona.
Pour rebondir sur ce que dit le général, il y a une manipulation encore supplémentaire qui est assez macabre aussi, c'est que on voit qu'il y a une asymétrie dans le nombre de personnes libérées, comme ça a déjà été le cas par le passé, mais que le Hamas tente de manipuler l'opinion publique en faisant penser qu'il y a une symétrie sur la typologie des otages libérés. Là, on pourrait regarder sous l'angle de ce sont des femmes et des enfants versus des femmes et des enfants. Et ça va jusque-là, le fait d'arriver à prendre l'ascendant, d'imposer son cadre et son rythme dans la négociation.
Mais du temps où vous connaissez cette zone, cette région du monde, général Lalanne Bertoudic, là, l'arc, si je puis me permettre cette comparaison, la corde de l'arc est quand même très, 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 très tendue.
Oui, mais là, on est, si vous voulez, en plein état de guerre. Israël sait très bien qu'elle joue sa survie. Alors, pas immédiate, mais sa survie à 10 ans. Il faut qu'elle rétablisse, enfin, il faut que l'État d'Israël rétablisse la dissuasion, j'allais dire la sanctuarisation de son pays. N'oublions pas pourquoi cet État a été créé. Il a été créé pour que des Juifs dans le monde puissent dire « il y a quelque part un endroit où l'on ne pourra plus me persécuter comme on le fait depuis des siècles dans beaucoup de pays. »
Et le nombre de Juifs qui sont partis de France pour faire leur aliya et pour aller en Israël, encore très récemment d'ailleurs.
Très récemment, nous avons un certain nombre, c'est de l'ordre de 2 ou 3 000. C'est très important, hein, même si nous avons la plus grande communauté juive du monde après les États-Unis. chez nous, 2 ou 3 000 personnes par an, c'est quand même très important. Mmh. Ils ne se sentent plus en sécurité chez nous, donc, ou ailleurs, ils décident de fonder l'État d'Israël, où là, ils seront tranquilles. Eh bien non, l'État d'Israël a été bafoué, en quelque sorte violé. La sécurité, la dissuasion de la puissance israélienne a été mise à bas. Et ils veulent la reconstituer.
Merci beaucoup Alexandre Lalanne-Bertoudic, merci à vous David Corona. D'autres informations bien sûr sur cette information cruciale de ce soir dans le journal de 19h.